RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet, Pascal Perry.
C'est la deuxième heure de Radio Brunet, nous sommes toujours en direct pour parler cette fois des Français et de l'économie. Alors les Français n'aiment pas nécessairement l'économie, c'est étonnant d'ailleurs parce que les Français aiment bien consommer. Consommer c'est un acte économique, c'est un acte d'achat, c'est même un acte de commerce. Pourtant ils n'aiment pas l'économie quand on leur parle, je sais pas, de l'impôt, de la dette ou des contraintes de production dans les entreprises. Vous voyez, le salarié qui va voir son patron en lui disant il me faut 20% d'augmentation, il sait pas nécessairement que c'est pas 20% net, mais qu'il faudra payer un peu plus, des cotisations sociales, que ça va peser sur le processus de production. Et cette même personne, elle sera étonnée de voir que les produits qu'il fabrique lui-même augmentent dans le commerce quand on les vend. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quand même une forme d'incompréhension, peut-être volontaire d'ailleurs, hein, des Français, l'économie. On est un peuple très politique, peut-être un peu fâché avec l'économie. Et puis on regarde toujours l'État comme si c'était la grande nounou, vous voyez, la grande nurserie, hein, l'État, tout vient de l'État. Il suffit, les gars, c'est pas très compliqué, il suffit de réouvrir la planche à billets, on imprime de l'argent, on le distribue et tout va bien. Bon, ça se passe pas comme ça, on évoque tout ça aujourd'hui dans cette deuxième heure avec Pierre Robert qui est agrégé de sciences économiques et sociales, prof en classe préparatoire, prof d'éco, hein, bien entendu.
Absolument.
C'est bien ça, hein. Bonjour. Et puis on l'évoquera, bonjour, on l'évoquera avec vous tous au 32-7. Sur le bonimétrie, vous avez déjà probablement un avis, je vais le demander dans un petit instant à Sifène. Et puis on en parlera également avec Thierry, tiens, qui est banquier, qui m'appelle du Var. Mais j'attends votre point de vue, vous et l'économie, tiens. Quelle relation ? Vous êtes plutôt marié pour longtemps, marié depuis longtemps, vous avez divorcé avec l'économie, vous êtes fâché avec l'économie, vous détestez l'économie. Donnez-moi votre avis au 32-16.
Les Français s'intéressent à l'économie, mais malgré cet intérêt pour la matière, ils ne seraient pas du tout au niveau...
Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un dordu.
La France enregistre un indice composite au plus bas depuis mars 2009.
C'est pas faux.
63% des Français n'ont aucune idée de l'ordre de grandeur du PIB.
Ouais, c'est pas faux.
L'État, par son intervention, en conduisant des politiques économiques, dont on dit qu'elles sont contracycliques...
Ah oui, je comprends. Non, vous n'avez rien compris du tout. Allez vous asseoir.
Bon, c'est vrai qu'on peut rigoler, sourire, hein, mais ça peut avoir des conséquences. Et finalement, Caroline, une étude de l'Institut Sapiens révèle que les lacunes des Français en économie, quand ce ne sont pas des impasses d'ailleurs, ont des conséquences sur le bon fonctionnement du pays, de la société dans laquelle on vit.
Et oui, les Français sont nuls en économie, c'est ce que révèle donc, comme tu le dis, une récente étude de l'Institut Sapiens. Mais qui dit méconnaissance économique ne signifie pas forcément absence d'intérêt pour ce domaine. En effet, bien que notre niveau soit assez bas et nous place bon dernier des pays européens en matière de culture financière, selon une étude récente d'OpinionWay, 63% des Français assurent que le sujet les intéresse vraiment. Déjà en 2017, un sondage IFOP montrait que 63% des sondés n'avaient aucune idée de l'ordre de grandeur du PIB, 65% ignoraient le montant de la dette publique, 50% n'avaient qu'une idée très approximative du SMIC et 70% des sondés étaient incapables d'évaluer correctement les effets de l'inflation sur leur budget. Et l'Institut Sapiens pointe clairement du doigt la raison à l'origine de l'ignorance des Français dans ce domaine, l'éducation, la mauvaise qualité de l'enseignement, notamment au lycée, où les programmes sont trop vastes et trop ambitieux, et où on délivre une mauvaise explication des notions de base, une éducation médiocre qui se prolonge à l'université ou dans de grandes écoles.
Mais en même temps...
Si notre ignorance en économie n'avait que pour conséquence de nous rendre ridicules lors de discussions au cours d'un dîner, eh bien tout irait bien, sauf que malheureusement c'est bien plus que ça, car c'est à la France que ces lacunes coûtent cher, en effet. Notre approche simpliste, voire caricaturale du monde financier entraîne une méfiance souvent excessive vis-à-vis de la mondialisation, de la finance ou encore de l'économie de marché et fait barrage à la réalisation de réformes parfois nécessaires. Pire, selon un économiste américain, notre méconnaissance dans ce domaine coûterait même à la France un point de croissance chaque année. L'Institut Sapiens propose alors plusieurs pistes pour remonter le niveau, une éducation de l'économie sans sciences sociales dès la seconde, avec un approfondissement jusqu'à la terminale pour tous les élèves ou encore des programmes de vulgarisation sur les réseaux sociaux, mais reste à savoir si les politiques vont s'inspirer de ces recommandations alors que se profile la réécriture des programmes du secondaire ainsi que la réforme du baccalauréat voulue par Jean-Michel Blanquer.
Alors, que pensez-vous de vos compétences personnelles en économie ? C'est un peu la question qu'on pose aujourd'hui dans le bonimétrie, Tiffane.
Est-ce que je pense de mes compétences ?
Non, ce qu'on demande à tous ceux qui ont voté, hein, à qui ils sont manifestés, qu'est-ce que vous pensez de vous-même ? C'est un peu ça la question.
Les Français sont nuls en économie et ça nous coûte cher, d'accord ou pas d'accord ? Et pour cette première tendance, vous êtes 85% à être d'accord avec Pascal. Continuez à voter sur rmc.fr, sur le compte Twitter de Pascal ou par SMS au 6-10-71.
Bien, on va passer ces 45 minutes avec Pierre Robert, qui est agrégé de Sciences Éco, professeur en classe préparatoire. C'est vous qui êtes l'auteur de cette note. Alors, c'est pas simplement un constat. Vous proposez des pistes de travail pour améliorer les compétences économiques des Français. On peut, si vous voulez, tiens, je vous propose de dialoguer à trois avec Thierry, qui est là, qui m'appelle du Var, de Toulon. Il est banquier. Bon, les questions d'argent sont souvent des questions économiques. Thierry, est-ce que vous constatez, vous, puisque vous êtes au contact du public, gérer son compte, au fond, ça peut être déjà un petit exercice économique. Est-ce que vous constatez que les Français sont bons, ou alors, si je commence par le haut, très bon, médiocre, très médiocre, mauvais ou très mauvais?
Bonjour Pascal.
Bonjour.
C'est pas faux.
C'est pas faux.
Ah, elle était facile.
Oui.
Non mais je partirais du bas, du très très bas.
Ouais.
Franchement, ils sont très mauvais. Alors moi, mon métier, alors j'ai gravi les différents échelons au sein de la banque, donc j'ai fait la banque
Détail.
Oui, dans la banque. Donc je travaille dans la banque de détail, du guichet. Aujourd'hui, je fais de la gestion patrimoniale.
Ouais.
Et donc j'ai vu différents profils. Donc que ce soit le profil, on va dire standard du client qui gère son compte, il le gère plutôt très mal. Quand même en montant dans la catégorie patrimoniale, on s'aperçoit que finalement, je réalise aujourd'hui le cœur de mon métier, c'est plutôt du placement,
ouais.
Notamment du placement soit assurance vie, soit bourse. Les deux étant quand même relativement très liés. On s'aperçoit que finalement, je leur parle de choses qu'ils ne connaissent pas du tout. La seule chose, en fait, qu'ils connaissent, et malgré tout, ils le connaissent très très mal, c'est le fonds euro. Quand on ouais. parle assurance vie, c'est, le sacro-saint fonds
c'est
euro.
C'est ce qui finance les déficits publics français. Hein
en fait, ils ne savent pas. En fait, quand vous demandez à quelqu'un, mais est-ce que vous savez ce que c'est que le fonds euro? Ben vous apercevez que finalement ils savent pas du tout, la personne ne sait pas ce que le fonds euro.
Mais Thierry, est-ce qu'il y a pas un problème est-ce qu'il y a pas un vrai problème de représentation du risque, parce que quand on va à la bourse, quand on investit, alors soit c'est des obligations, c'est une sortie un peu garantie, soit c'est des actions, mais les Français n'aiment pas le risque, ils ne veulent pas perdre.
Alors oui, je confirme. La première chose que l'on dit, alors aujourd'hui on fait beaucoup de diversification, hein,
ouais,
on n'a pas le choix,
ouais.
Si on veut avoir un peu de rentabilité, aller chercher un peu de sens au sein de son épargne, il faut qu'on diversifie. Donc dès l'instant où on diversifie, ben on va aller sur des produits plutôt financiers, plutôt boursiers.
Ouais.
On va quitter le sacro-saint fonds euro, du moins en grande partie, pour aller chercher autre chose.
Ouais,
et donc
ouais.
on va aller sur de la bourse. Et là de suite, c'est effectivement le bouclier du risque qui sort. En disant non mais moi je ne veux aucun risque, et en fait ce que
ça
pas les Français c'est que même quand on fait du placement en fonds euros, on a un risque.
Ouais.
Alors moi j'explique à mes clients la chose suivante, je pose une question, je leur demande s'ils savent qui est le garant de leur livret A et qui est le garant de leur fonds euros. Alors bien sûr on me sort de suite l'argument, c'est l'État, d'accord. Et sans jeu de mots, dans quel état sont les comptes de l'État?
Ouais.
Ah ben, il n'y a plus un sou. Vous savez, moi, pour ce prix-là, je vous garantis ce que vous voulez.
Thierry, restez avec moi parce que on est avec l'auteur de cette note, Pierre Robert. Vous reconnaissez un petit peu, enfin vous y retrouvez vos petits là dans ce que raconte Thierry.
Hein. Les enquêtes montrent qu'effectivement le niveau d'éducation financière des Français est quand même très faible. Ils ont beaucoup de mal avec les calculs d'intérêt simples et également beaucoup de mal avec la notion de risque. Pour ce qui est des obligations, ils se trompent d'ailleurs. Puisque si demain les taux d'intérêt remontent, le cours des obligations anciennes actuellement émises va baisser. Donc ce n'est pas aussi sûr qu'on pourrait l'imaginer. Mais ça, ce n'est qu'un aspect des choses. L'éducation financière laisse à désirer,
ouais.
mais ça s'inscrit dans un contexte plus général de manque d'éducation.
Mais ce qui est étonnant, c'est par exemple, tout à l'heure je parlais de la situation des entrepreneurs. Ce que vient de nous décrire Thierry, là, c'est des gens qui viennent le voir, qui lui disent voilà, moi je voudrais un placement sans risque. Mais quand un entrepreneur entrepreneur, un agent économique donc, choisit d'investir, il prend un risque. S'il a une production supplémentaire, il est normal que ce risque soit récompensé, non? Mais on voit qu'il y a une espèce de décalage là. Le risque pour soi, surtout pas. Le risque pour les autres, pourquoi pas?
Oui, mais sur ce point, les enquêtes sont très contradictoires parce qu'elles disent d'une part que les Français seraient prêts à prendre des risques pour leur épargne, ouais. Mais dans les comportements effectifs, ils ne le font pas du tout.
C'est déclaratif, c'est totalement déclaratif.
C'est totalement déclaratif. Et la notion de risque de l'entrepreneur est très très mal perçue.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique que l'entrepreneur soit un peu présenté comme d'abord l'entreprise comme un espace dangereux et l'entrepreneur comme le dirigeant d'un espace dangereux?
Il y a un vieux fond culturel. L'entreprise est souvent vue comme un lieu d'exploitation.
Oui, c'est ça.
Ça fait partie des idées reçues en France. On se méfie des entrepreneurs, ils deviennent suspects dès lors qu'ils s'enrichissent un peu trop. Mm. Ça rejoint aussi notre attitude culturelle envers la richesse. Des enquêtes internationales sur les valeurs le montrent. Lorsqu'on pose aux gens la question, est-ce que pour être riche, il faut être corrompu? Est-ce que pour aller au sommet, il faut être corrompu?
Quelle question.
Eh bien, 52% des Français pensent que c'est le cas, contre 20% des Américains. Mm. Donc là, effectivement, ça amène à se
Mais
poser
ce matin,
quelques questions.
Écoutez, sur Twitter, vous savez, on poste les sujets de notre émission, et sur Twitter, ce matin, on a posté ce sujet. J'ai eu beaucoup de réponses qui me disaient, mais si c'est pour enseigner plus d'économie libérale, pour les patrons à l'école, c'est pas la peine.
Non, mais il ne s'agit pas d'enseigner l'économie libérale.
Non, mais elle n'est pas libérale, d'ailleurs.
Cette notion de notre économie n'est pas du tout libérale. Bon, on essaie actuellement, avec quelques réformes, de desserrer quelques freins, mais on est loin d'être au bout du compte. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un enseignement de l'économie qui soit aussi neutre que possible et non partisan. Mm. Maintenant, si ça peut faire aimer davantage l'entreprise, les entrepreneurs et ceux qui prennent des risques, tant mieux.
Bon, alors Thierry, les gens qui sont en face de vous là, qui viennent vous voir, donc ils connaissent pas ou peu l'économie, quels conseils vous leur donnez?
En fait, je commence par le respect.
Vous les prenez par la main? Vous faites la nounou, vous
alors,
aussi?
Oui, c'est mon boulot, hein.
Comme l'État.
De prendre des personnes par la main, oui, comme l'État. Ce que disait votre interlocuteur qui est avec mon plateau est tout à fait vrai. On est plus près d'une économie qui ressemble à l'URSS des années 70.
Ah, vous y allez fort, là.
Qu'aux États-Unis. Tout vient de l'État. Tout est régenté par l'État. Quand monsieur dit qu'on dessert légèrement l'emprise de l'État
sur le
fonctionnement, c'est vraiment anecdotique.
Qu'en France, de la naissance à la mort, on peut être couvert par l'État. Et on a toute forme d'assurance pour les événements de la vie, pour les accidents de la vie, qu'il s'agit d'accidents de santé, d'accidents du travail, la retraite. Alors je sais qu'il y a une grande réforme qui se prépare, mais les retraités français, en moyenne, sont parmi les plus riches du monde. Je sais que quand on dit ça, ça fait frémir un certain nombre de gens, mais c'est la réalité, quoi. Et pourtant, elle n'est pas acceptée comme telle, Thierry.
Et c'est pour ça que rien ne va.
Ouais. Pour vous, c'est pour ça que rien ne va.
Ah ben oui, tout est sclérosé. Alors, pour revenir à votre question, la première chose que j'explique à mes clients, c'est que le rendement, parce qu'en fait, ce que recherchent les clients, ce serait du fonds euro à 4 à 5% comme dans les années, début des années 2000.
Ça n'existe
plus. Donc, je leur explique que de toute façon, aujourd'hui, ça n'existe plus et que c'est pas demain la veille qu'il y en aura. Partant de là, je leur explique aussi, c'est que le rendement financier, c'est le reflet d'un risque. Mm. Vous allez en bourse, vous pouvez faire du 300%. Comme vous pouvez perdre. Et par contre, à côté de ça, si vous voulez pas prendre de risque, il y a le livret A. Et là, de suite, l'argument, c'est oui, mais ça rapporte plus rien. C'est normal, vous prenez pas de risque. Vous ne pouvez pas avoir de rendement en contrepartie. Et donc, une fois qu'on a planté ce décor-là, c'est un petit peu plus facile d'expliquer aux personnes qu'il faut diversifier leur placement.
Bien sûr. Bien sûr.
Et aller sur des produits économiquement
bien sûr.
Viables.
Bon. En tout cas, merci Thierry pour ce témoignage. C'est toujours utile d'avoir c'est un artiste de l'économie, un banquier. C'est quelqu'un qui manipule le fiduciaire, l'argent, hein. Alors, j'ai quelques petits mots, tiens, sur Twitter. Il y a Frédéric qui me dit, les économistes n'ont pas prévu deux éléments majeurs, la crise de 2008 et la montée de la net économie. D'accord sur 2008, sur la net économie, c'est pas tout à fait vrai. On est quelques-uns à avoir réfléchi quand même à la transformation de valeur, à la chaîne de valeur de l'économie digitale. Et puis surtout, j'ai envie de dire à Fred, qui nous écrit régulièrement, L'économie, c'est pas uniquement le privilège des économistes. Tout le monde devrait pouvoir parler d'économie dans ce pays, y compris les ménages qui sont, c'est une des premières leçons d'économie, hein, les premiers agents économiques. Les agents économiques, c'est les ménages, les entreprises et l'État. C'est tout ça. Donc, vous devriez pouvoir en parler. Alors, tu nous fais un petit point, vas-y.
Les Français sont nuls en économie et ça nous coûte cher, oui. D'accord ou pas d'accord. Et pour le moment, une belle majorité s'affirme puisque vous êtes 79% à penser comme Pascal. Continuez à voter sur rmc.fr, sur le compte Twitter de Pascal ou par SMS au 610-71.
Alors dans un petit moment, je vais demander à Pierre Robert, qui est toujours avec nous en studio, pourquoi ça a une conséquence sur la croissance? En quoi est-ce que ça a une influence? En quoi le fait d'enseigner ou de désenseigner, d'ailleurs, l'économie dans certains cas peut avoir une influence sur notre croissance? Ça tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-15h, c'est Radio Brunet, Pascal Perry.
Avec toute l'équipe estivale de Radio Brunet sur RMC, toujours en direct, nous sommes très heureux de vous parler aujourd'hui des Français et de l'économie. Il y a très longtemps que j'avais envie de faire ce sujet, parce que je constate souvent dans les échanges qu'on peut avoir sur l'antenne qu'il y a des gens qui sont assez savants et puis d'autres par contre qui ignorent quand même les lois basiques enfin de l'économie. C'est à se demander dans quel monde d'ailleurs ils vivent. Je suis avec Pierre Robert, agrégé de sciences éco et sociales, professeur en classe préparatoire. On accueillera Laura Pfister dans un tout petit moment. Ça se prononce Pfister. Hein, voilà, c'est pas un peu alsacien tout ça,
non? Un petit peu.
On a une alsacienne dans le studio qui valide, qui est la vice-présidente de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Mais je vais d'abord vous reposer cette question, Monsieur Robert. Quel rapport entre la méconnaissance économique et la croissance?
Eh bien, le rapport est vraiment fort. Ce désintérêt pour les questions économiques entretient les maux de notre société, qui est une société de défiance, rongée par l'étatisme, on attend beaucoup trop de l'État, et par le corporatisme, on n'a pas de vision d'ensemble, et on s'arc-boute sur les intérêts particuliers de la catégorie à laquelle on appartient.
Par exemple, les cheminots, non? C'est ça, c'était le conflit des cheminots.
C'est un exemple qui vous est venu spontanément à l'esprit.
Naturellement, oui, mais j'aurais pu
y penser aussi.
Oui, vous auriez pu y penser, on aurait pu penser, je sais pas, aux salariés d'Air France, mais on est tous comme ça, vous êtes les journalistes aussi, le
beaucoup
sont.
Beaucoup d'exemples, absolument. Hein, les journalistes... La société française est une société en silo.
Elle est silotée.
Société corporatiste, silotée, et finalement, on n'a pas de vision d'ensemble. Ouais. On n'a pas conscience des interactions avec les autres.
Ouais.
Bon, donc ça, c'est un point, à mon avis, important. Et de cela découle, bien sûr, une très grande difficulté à réformer notre économie et à l'adapter au contexte
actuel. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut demander des petits efforts aux uns ou aux autres. Si on veut changer de modèle, il faut que moi, j'accepte de changer aussi peut-être mon modèle de rémunération ou ma retraite, ou il faut que j'accepte de vivre dans une société où je serai moins bien couvert, peut-être moins bien remboursé. Le cheminot aussi, le pilote d'Air France, peut-être qu'il devra renoncer à autre chose, à des augmentations de salaire moins significatives. On pourrait parler des paysans, enfin, vous avez raison, cette société française, c'est une société millefeuille. On juxtapose, ou on pose les uns à côté des autres, des corporations, et personne ne veut renoncer à ces avantages, parce que peut-être on a eu beaucoup. Est-ce que vous croyez pas que ça joue un rôle important, ça? Nous sommes une société confortable. Quand on vit dans une société confortable, on est toujours pessimiste parce qu'on a peur de perdre ce qu'on a. Alors que regardez les autres, les Thaïlandais, les Africains, tous ces gens qui sont dans des sociétés en croissance, ils sont optimistes, ils voient le monde en rose alors que nous le voyons en noir.
Mais j'approuve complètement ce que vous dites. Simplement, dans une société opaque comme la nôtre, société en silo, où on manque de transparence, on a toujours peur que l'avantage qu'on perd, peut-être pour un plus grand bien commun, soit en fait capté par d'autres. Dès lors, pourquoi bouger? Donc, il y a une situation de blocage de ce type. Personne ne veut évoluer parce qu'on n'a pas confiance. On rejoint le thème de la confiance. Et c'est là qu'intervient la culture économique. La culture économique permet d'avoir une sorte de vision d'ensemble des choses et de comprendre que et de ne pas raisonner uniquement à très court terme en ne prenant en compte que ces petits intérêts catégoriels. Ouais. Enfin, petits, ils sont peut-être pas si petits que ça. Du moins,
Non, on sort du domaine de l'économie pour rentrer dans celui de la psychologie, mais c'est même de l'anthropologie. On se préfère toujours soi-même à son voisin.
Oui, mais si ça bloque.
Bien sûr.
En débloquant, on peut contribuer au bien-être de tous. Tout le monde peut s'y retrouver.
Alors, là-dessus, tiens, il y a une idée qui traîne depuis très longtemps. Je l'ai retrouvée ce matin, peut-être pas exprimée comme ça sur Twitter, qui dit en substance, on ne s'enrichit qu'au détriment des autres.
Ça, c'est une idée terrible.
C'est une idée affreuse.
Ravageuse. Ouais. C'est l'idée que ce que gagne l'un est forcément pris à un autre. C'est l'idée d'un jeu à somme nulle, qui ne correspond pas du tout aux réalités économiques.
Bon. Alors, Laura Fister est là. Bonjour. Bonjour, Laura.
Bonjour.
Vous êtes la vice-présidente de l'Union nationale lycéenne. Qu'est-ce que ça vous inspire, tiens, l'enseignement de l'économie au lycée?
Disons qu'elle existe déjà avec la SES. Après, la problématique qui peut exister, c'est que quand on voit un petit peu comment fonctionne, enfin, quels sont les programmes pour avoir fait une ES avec de la SES, on voit très vite qu'il n'y a que certains économistes qui sont étudiés, ce qui reste un problème, parce que si on veut être neutre et avoir de vrais débats par rapport à l'économie, parce qu'il en existe et c'est important, bah, il faut que ce soit un peu plus neutre. Et aujourd'hui, ça l'est pas. Ensuite, si c'est que pour étudier que l'économie, je pense que l'économie va avec la sociologie. Tout à l'heure, on parlait d'anthropologie aussi, de psychologie. Et effectivement, ça va un peu tout ensemble.
Ah ben, bah, les approches, oui, approches pluridisciplinaires. Oui.
Tout à fait.
Oui, alors, monsieur le professeur, vous avez une... L'élève, là, qu'est-ce que c'est?
Bah,
oui,
moi, il me semble... bonjour, Laura. Bonjour. Moi, il me semble que les programmes sont quand même très déséquilibrés en faveur de la sociologie. Si on regarde le programme de première, 90 heures d'économie et 70 heures pour le reste. Sous l'étiquette économie, souvent, on étudie les questions d'inégalité.
La sociologie.
Oui, par un autre biais.
Ouais, ouais.
Voilà. Donc, il me semble que la place faite à l'économie, à l'analyse économique proprement dite, à la microéconomie, n'est pas suffisante pour réellement donner une culture solide dans ce domaine.
Oui, par exemple, Laura, l'économie, enfin, il y a une partie de l'économie qui est très idéologique. D'ailleurs, quand on étudie l'histoire de l'économie, il y a eu une économie politique et puis elle s'est un peu mathématisée. Mais il y a au fond aujourd'hui encore des éléments rationnels incontournables. Il y a des lois d'airain, comme on dit en économie. Quand on calcule des prix de revient, ça peut être une équation mathématique. Et ça, on le fait pas vraiment. On est toujours quand même un peu dans des appréciations politiques et idéologiques de l'économie. C'est peut-être aussi ce qu'on reproche à l'enseignement de l'économie, Laura Fister.
Alors, l'économie en lycée, c'est de la macroéconomie, du coup, c'est ce qu'on appelle le global, en fait.
Oui.
Et c'est pour ça, et parce qu'on est en
lycée,
on
n'a pas encore parfois, fait ça.
C'est un peu du pipeau, parfois. Oui, mais sauf qu'il faut commencer par quelque chose. Et le plus simple, c'est quand même de commencer par de la macro. La micro a lieu à l'université.
Oui,
quand on va à l'université, Et c'est important d'être progressif dans ce qu'on fait, parce que sinon, on va être totalement perdu. Si on n'a pas la macro, les théories de base, j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on pourrait ensuite comprendre de la micro. En plus, en dehors de ça, ça pas grand chose à voir non plus, donc forcément. Mais par contre, il est pour autant important d'avoir des bases théoriques de manière à pouvoir ensuite comprendre ne serait-ce que globalement qu'est-ce qu'est l'économie. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir de la macro au tout début, en tout cas au lycée, en économie.
Mais vous dites que c'est un enseignement orienté. Alors, je sais pas orienté dans quel sens. Moi, il y a longtemps que j'ai quitté le lycée. En revanche, j'ai eu des enfants qui allaient au lycée il y a pas très très longtemps. Et je me rappelle d'une illustration dans un livre d'économie où vous aviez deux photos, vous aviez deux dessins. C'était pas des photos, mais des dessins en substance. Vous aviez sur un dessin un gros délégué syndical et un petit patron, et puis sur un autre dessin qui le précédait, un gros patron et un petit délégué syndical. Et on expliquait que quand il y avait des délégués syndicaux dans l'entreprise, le patron n'était pas le roi. Pardonnez-moi, mais l'entreprise n'est pas une démocratie, c'est aussi un lieu de création de valeur. Heureusement qu'il y a des patrons, non?
Ah non, mais là-dessus,
d'accord,
pas là-dessus, après, je n'ai pas dit que j'étais d'accord, mais après...
Non, mais heureusement qu'il y a des gens pour mettre du pognon, non? Mais ça commence par ça.
Du pognon
dans les entreprises pour investir.
Dans les entreprises, mais c'est une autre question, ça veut dire que ça n'a pas de rapport avec l'éducation, mais... Non mais je pense que en dehors de ça c'est pas ça qui est montré vraiment. Ce qu'ils veulent montrer, c'est pas une question de démocratie ou autre. On nous explique qu'effectivement comment fonctionne une entreprise. Il y a des délégués syndicaux, vous savez très bien pourquoi. C'est pour défendre les travailleurs et les travailleuses. C'est ça, heureusement, et c'est important. Par contre, à côté, toutes les théories qu'on nous apprend, les théories économiques, elles sont Keynes, On peut en citer plusieurs. Ah,
c'est pas un homme de droite, hein, Keynes.
Ah, j'ai pas dit que c'était un homme de droite, mais c'est pas un homme de gauche non plus. Hein. Excusez-moi. Mais non, c'est un mix un peu de tout. Après, ça peut être intéressant. Hein. Moi, j'adore personnellement lire des choses sur plusieurs économistes. D'accord. Mais justement, je pense qu'il faut avoir une diversité plus grande d'économistes pour permettre justement un meilleur débat. Parce que si j'ai bien compris, d'accord, c'est aussi ce qui était ressorti du rapport Sapiens.
D'accord.
Il y a une trilogie, Keynes, Marx, Bourdieu.
Oui.
Revient.
C'est
tout
quand même
le temps.
Pas très à droite tout ça.
Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de Laura d'une progressivité de l'enseignement.
Ouais.
Simplement, il me semble qu'on s'y prend mal. En seconde, il faudrait doter les élèves d'un kit de survie économique, centré sur l'analyse économique, sur les vertus de l'échange. Commencer par des choses simples. La macroéconomie, c'est très compliqué. En plus, c'est pas consensuel.
C'est un peu parfois aussi de vous le dire, mais du jus de crâne. Hein. Évaluer
toujours,
la perspective d'investissement en 2019, parfois c'est du pipeau, quoi.
Oui, mais là vous revenez sur le terrain financier.
Ouais.
Effectivement, bon, c'est peut-être un domaine d'application où on peut se tromper.
Oui.
Je suis d'accord avec vous. Mais je pense que l'important serait de partir d'un noyau de connaissances vraiment tourné vers l'analyse économique, mais d'abord simple, et puis peu à peu de rendre les choses plus complexes, de les enrichir avec les apports des autres sciences sociales,
d'accord,
pour vraiment ouvrir tout ça dans le supérieur. Avec l'histoire de la pensée économique, avec l'épistémologie, etc.
Bon, tiens, Thierry est en ligne, il est dans le Morbihan. Restez avec nous, hein, Laura, si vous voulez bien. Vous avez deux minutes, oui. Restez avec nous. On va prendre Thierry, qui a 50 ans et qui est salarié dans une entreprise du Morbihan. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour Pascal et toute votre équipe. Effectivement, je voudrais rebondir sur votre sujet sur l'information à l'économie, on va dire.
Ouais, l'information tout court, peut-être.
L'information, court, même si chacun d'entre nous ne sont pas des experts à la bourse. Comme votre banquier ou vous-même, par exemple. Mais je reviens tout simplement avec la base en fait, de l'économie d'un salarié, c'est la paye.
Ouais.
Et je m'aperçois que moi, je suis dans une entreprise d'une cinquantaine de salariés.
Ouais.
Ben, la fiche de paye, elle n'est pas lue par les gens. Elle est pas décryptée, elle est pas, on la regarde même pas d'ailleurs, à tel point que parfois dans la case où les fiches de paye sont mises à la fin du mois ou au début du mois, on va dire, ça peut rester 2-3 mois sans que personne ne prenne leur fiche de paye.
Ah, c'est étonnant. Enfin, l'essentiel, vous me direz, c'est que ce soit sur le compte, mais
c'est ça bien le problème.
Bien.
C'est bien ça le problème, Monsieur Perry.
Ouais.
C'est que le virement se fait sur le compte, effectivement. Mais on n'a pas décrypté toutes les charges à la fois patronales et salariales, tout ce qui est déductible du salaire. Donc ça veut dire qu'on n'a pas pris en compte notamment la notion de brut et de net.
Ouais.
Et c'est là qu'il y a un vide. Pour moi, il y a un vide d'information terrible qui justement pousse justement à ce qu'il n'y a pas d'analyse chez les gens.
Le patron, ou même, j'allais dire, par extension, le responsable syndical, il devrait l'expliquer. Entre votre salaire brut et votre salaire net, il y a des cotisations sociales. Ces cotisations, elles vous donnent droit à des prestations, si vous en avez besoin. Alors, il y a aussi un certain nombre de sujets sur lesquels, à mon avis, il faudra deux mots d'explication. Vous voyez, la retraite en fait partie. On va entamer là une réforme de la retraite, et j'entends beaucoup de gens me dire, moi j'ai cotisé, j'y ai droit. Non, le système de la retraite en France, c'est pas ça. C'est la solidarité intergénérationnelle. C'est ceux d'aujourd'hui qui payent. C'est pas ce que vous avez accumulé, parce que ce que vous avez accumulé, par définition, enfin si c'était le cas, ce serait non pas un système par répartition, mais par capitalisation. Donc il y a beaucoup de notions, vous voyez, qui échappent un peu et dans lesquelles il y a des malentendus, finalement, un peu de confusion.
De confusion, mais je dirais peut-être de confusion volontaire, ou des gens qui ne veulent pas l'entendre, qui ne veulent pas l'entendre. Par exemple, j'écoutais votre émission rapidement sur les arrêts de travail ce matin chez les GG.
Ouais.
Les arrêts de travail chez nous, dans une entreprise comme nous, ça pénalise l'entreprise, ça coûte 50 000 euros par an. 50 000 euros qui est pris par la CRAM suite aux accidents de travail.
D'accord. Alors,
effectivement, mais quand on a un arrêt de travail d'un an et demi, les collègues vont dire, oh bah, c'est normal, il est en arrêt, il n'y a pas de problème. Mais non, mais on paye tout ça, c'est ça le problème.
Ah ben
et
oui,
là,
c'est pas
il n'y a pas cette compréhension à la pédagogique, c'est collectif en fait, la dette est collective. C'est vrai pour la retraite, pour l'assurance maladie, et ça continue comme ça. C'est comme une déresponsabilisation de l'individu en fait. Et là, moi, je suis étonné, quoi. Moi, ça me parle pas. Je n'arrive pas à m'y faire.
Le patron chez vous, il vous parle un peu de ces sujets-là ou pas?
Très, très peu. Je dirais très peu. Nous avons, bon, c'est, vous savez, dans le privé, c'est, on n'est pas sur les grands groupes. C'est des relations un peu directes, surtout quand il n'y a pas de représentant syndical.
Raison de plus.
Ouais, oui, mais ces sujets, en fait, c'est, comment dire, c'est très dur à éduquer.
Peut-être que le patron, il n'en sait pas plus que vous sur ça.
Si, ouais, mais si. Souvent, c'est le cas, mais effectivement, on pourrait être pensé. En fait, c'est vrai que peut-être il faudrait décrypter auprès des salariés la fiche de paye. Effectivement.
Bon.
Effectivement.
Merci beaucoup, Thierry, pour ce témoignage. Merci. On reste avec Laura, qu'on reprendra juste après la pub, et avec notre invité. Vous êtes l'auteur de cette note, Pierre Robert. Hein. Passionnante, c'est très intéressant. Mais ça permet de comprendre vraiment. L'économie, c'est une matière. C'est une science. Alors, c'est peut-être une science humaine et sociale. Il y a un peu de mathématiques, mais il y a quand même d'autres éléments. Et là, Laura, elle a pas tout à fait tort, hein, Laura Pfister. Moi, je suis pour les approches transdisciplinaires. Un peu de géographie, un peu d'économie, un peu de sociologie. Parce que, au fond, tout ça marche ensemble.
Totalement d'accord. Au fur et à mesure du parcours, on enrichit et on complexifie.
Mais on commence par les bases. Bien. Voilà. Alors, le brunimétrie. Vas-y, Tiffaine.
Les Français sont nuls en économie et ça nous coûte cher. D'accord ou pas d'accord? Et vous êtes pour le moment 77% à penser comme Pascal. Continuez à voter sur rmc.fr, sur le compte Twitter de Pascal ou par SMS au 610-71.
À tout de suite sur RMC.
RMC, 13h, 15h, c'est Radio Brunet. Pascal Perry.
Alors, aujourd'hui, nous parlons de l'économie, l'enseignement de l'économie. Les Français ne sont pas très bons, pour ne pas dire qu'ils sont très mauvais en économie. Ça nous coûte cher, ça pose des problèmes. Vous nous l'avez expliqué, Pierre Robert, vous qui êtes l'auteur de cette note sur l'enseignement de l'économie. Elle est téléchargeable à institutsapiens.fr. institutsapiens.fr. Et vous nous dites il faudrait améliorer le contenu de l'enseignement. Tiens, j'ai Olivier qui me dit les Français n'aiment pas l'économie, c'est un concept anglo-saxon, le français est idéaliste, le bonheur ne réside pas dans les écritures financières, le vent zadiste souffle sur les poussières du taylorisme. On a des poètes.
Oui, mais ça nous amène dans le mur, justement.
Mais oui, bien sûr que ça nous amène dans le mur.
À l'esprit Astérix.
En chantant. Me dit Max, les Français sont juste prisonniers d'un système à bout de souffle. Et il y en a un qui me parle de Nathalie Arthaud, prof d'éco. C'est vrai, Nathalie Arthaud, ça doit être tragique, les cours d'économie. Elle vous parle de la liberté d'entreprendre, tout ça, ça doit la démanger, non?
Elle fait sûrement des cours très intéressants, mais pas exactement conformes à ce que peut-être il faudrait enseigner aux élèves.
Bon. Très bien. On est aussi toujours avec Laura Pfister, qui est syndicaliste, vice-présidente de l'UNL, l'Union nationale lycéenne. Vous venez d'avoir votre bac, Laura. Bravo.
Merci.
Super. Est-ce que vous allez faire de l'éco maintenant? C'est ma dernière question.
Alors non, je vais en sociologie.
Oh, voilà. Vous n'aimez pas les mathématiques?
C'est plutôt les mathématiques qui m'aiment plus.
Ah, très bien. Mais socio plus éco, ce serait parfait, les deux.
Alors oui, sauf que j'ai beaucoup de mal avec la micro, du coup...
C'est pourtant ce qu'il y a de plus simple, enfin, je trouve.
C'est ce qu'on me dit, je sais, mais bon, peut-être que je cherche à faire compliqué.
Oui, mais attendez, vous mettez du Bourdieu, du Weber avec de l'écho, et puis ça prend du sens d'un seul coup. Ça devient un peu plus concret, c'est moins fumeux, vous voyez.
Mais Laura, il faut persévérer, parce que c'est beaucoup plus simple qu'on imagine.
Bien sûr.
Je parle de la micro.
Hein, oui.
Et de l'analyse économique.
Et pas de la micro-informatique, Laura. C'est de la micro-économie dont on parle.
Je sais bien.
Bon, je vous souhaite bonne chance, en tout cas, dans vos études. Vous avez eu une bonne note en économie au bac ou pas?
Oui, j'ai eu 15.
Bah, c'est bien.
Bravo.
Bah alors, qu'est-ce qui vous retient, hein? Bon, écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Merci de ce témoignage. On accueille Anne de Guigné, qui est journaliste au Figaro. Et Anne pense
bonjour,
que...
Pascal.
Bonjour, ça va bien? Vous êtes en forme?
Très bien.
Oui, on vous prend pas pendant vos vacances, non? Ça va?
Si, mais avec plaisir.
Mais il y a toujours quand même un peu de monde pour écrire au Figaro, hein, même si vous êtes en vacances. Bon, les Français n'ont pas toujours été nuls en économie. C'est une nouveauté, c'est ce que vous nous dites, là?
Et non, mais ça c'est vrai, hein, vous savez, juste avant 1900, il y avait environ une centaine de journaux économiques et boursiers à Paris, et les gens se les arrachaient. Et dans les familles françaises, on le voit dans les grands romans de l'époque, C'est un peu comme dans les familles américaines aujourd'hui, où on se retrouve le dimanche et chacun parle des coups boursiers qu'il a fait, des actions qu'il a achetées. Et à l'époque, on voit dans les romans de Balzac, Maupassant, on voit les parler Eugénie Grandel, le père d'Eugénie, Félix, apprend à sa fille à gérer sa fortune, il lui apprend les bons coups. Et vraiment, il y a eu cette époque qui a complètement disparu, où les familles de la bourgeoisie, pas toute la France, mais la bourgeoisie naissante là, de la deuxième révolution industrielle, parlait écho et coups boursiers, ça fascinait tout le monde. Ça a disparu, mais il y a eu une...
Comment vous expliquez-vous la puissance de l'État dans la pensée économique? Est-ce que, je sais pas, c'est l'héritage de Capet, Charlemagne, Napoléon, le général de Gaulle? Comment se fait-il que dans ce pays, à la différence de nos voisins d'ailleurs, souvent, on soit toujours à se tourner vers l'État quand il y a un problème économique?
Ouais, ça c'est... C'est vrai que là, c'est la question... On parle souvent de Colbert, là, quand on parle
oui,
de France.
Oui, le colbertisme, oui.
Après, culturellement, il y a eu, en tout cas, je pense qu'il y a une partie de... Justement, suite à cette période d'effervescence, d'effervescence vers la bourse, il y a eu beaucoup de déceptions. Enfin, il y a évidemment plein de facteurs, mais je pense que c'est l'un des facteurs. Il y a eu beaucoup de déceptions, avec différents scandales les uns après les autres. Avec beaucoup d'épargnants ont été ruinés.
Oui.
Et je pense qu'il y a eu une... on peut pas parler que de facteurs, mais je pense qu'il y a eu vraiment une grande déception des épargnants français, des ménages envers l'entreprise. Et en parallèle, voilà, sont arrivés le marxisme a beaucoup marqué la France au début du XXe siècle.
Mais pourtant, les Français aiment bien la propriété. Vous voyez, on faisait hier une émission sur la propriété immobilière. Les Français, ils sont très attachés.
Non, mais c'est vrai que c'est bonne, et ils adorent que l'État protège leur propriété.
Ouais.
En
fait, la thèse française, Anne, c'est l'argent ne fait pas le bonheur des autres, mais il peut faire le mien.
Ouais, c'est pas mal vu, parce que, ouais. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce qu'il y a eu un, en tout cas, moi, c'est une période que j'aime bien, avec fin 19e, et là, c'était tout autre chose, d'entrepreneur,
de
boursicoter dans tous les champs, plein de boîtes qui se montent partout. Et je pense qu'il y a eu les crises financières, la crise des années 30 qui a été terrible. Il y a eu une montée en puissance à la fois évidemment du marxisme et puis d'extrême droite maurassienne qui a été très forte dans les années 30.
Oui.
Et je pense que les Français sont vraiment un peu divisés entre un socialisme très fort, l'esprit maurassien qui est très loin de l'entreprise aussi.
Ah oui.
Ça fait tout le début du XXe siècle.
Oui.
Et il y a eu un espèce d'égout du capitalisme, je pense que culturellement
des affaires, les affaires, enfin le grenouillage d'une certaine façon. Alors attendez, Anne, j'ai avec moi Pierre Robert qui est prof de sciences économiques qui a publié cette note chez Sapiens sur les Français et l'économie. Qui lève le doigt. Il est bon élève. Vous avez la parole.
Simplement, à l'issue de cette période bénie, en quelque sorte, qui a été la Belle Époque, on a eu la guerre et les Français, les épargnants, ont été ruinés par les emprunts de guerre, donc par l'État.
Bien sûr.
Il y a eu les emprunts russes et là, on a été ruinés par les banques qui avaient mal conseillé leurs clients. Ultérieurement, on a eu la crise de 1929, avec effectivement beaucoup de déboires, donc tout cela a pu rendre les gens très très méfiants.
Oui, mais enfin, des histoires comme ça, là, il y en a eu partout. Il y a eu de mauvaises affaires de réalisées par les ménages en Angleterre, en Espagne, en Italie. Enfin, comment se fait-il qu'en France, on en soit toujours à une situation de défiance, comme c'est le cas à l'égard des entreprises, même si, là, il y a des éléments contradictoires. Il y a des sondages qui sont faits régulièrement. Vous avez une majorité de Français qui disent qu'ils aiment leurs entreprises, l'entreprise où ils travaillent, mais en même temps, globalement, dans la société, la lame de fond, c'est méfions-nous des boîtes.
Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'occupation. À la fin de la guerre, on a considéré que les élites économiques avaient failli.
Elles ont collaboré.
Pas plus que la moyenne
mais ils avaient collaboré.
Et à ce moment-là, sous l'impulsion du programme du Conseil national de la résistance, l'État a pris les commandes. Et effectivement, sous la houlette de l'État, l'économie s'est reconstruite, la prospérité est revenue et on s'est habitué à ce que l'État, ces technocrates, gèrent l'économie. Ça semblait bien marcher.
Enfin, quand en 1945, De Gaulle refait les finances de la France, il emprunte de l'argent aux Français. C'est pas l'État qui donne de l'argent aux Français, c'est les Français qui donnent de l'argent pour reconstruire l'État.
Oui, ça, plus l'inflation.
Plus l'inflation qui était dévorante.
Était dévorante.
Absolument.
Mais, Il se trouve néanmoins que sous l'impulsion de l'État, pendant une trentaine d'années, ouais, l'économie française s'est plutôt bien portée. Ouais. Et à ce moment-là, enfin, les gens ont gardé l'idée que l'État était un bon pilote, ce qui n'est plus vrai aujourd'hui. Mmh. Et ce qui est curieux, c'est que ça ne marche plus, hein, cet pilotage par l'État. Mais le paradoxe, c'est que les Français ne maudissent pas l'État, mais maudissent l'économie de marché. Mmh.
Mais Anne, il y a un autre concept, enfin une autre notion avec laquelle les Français sont pas toujours très à l'aise, quoique, c'est la concurrence. C'est vrai qu'on aime les champions nationaux dans ce pays, où on les a aimés. Avec parfois des attitudes un peu ambivalentes, j'aime bien le monopole sauf quand j'en suis victime, où j'ai besoin d'un champion national, mais dans d'autres domaines, j'aime bien la concurrence.
Ouais, ça c'est clair que la concurrence, pour le coup, en économie, il y a quelques consensus, et que la concurrence est bonne pour tout le monde, ça c'est un point clair, et c'est pas du tout, et c'est vrai que c'est pas dans la culture française, en effet. Les anglo-saxons, pour eux, c'est beaucoup plus clair, mais je pense que c'est en partie lié aux politiques, qui sur le papier sont pour et puis arriver devant trouve toujours un peu les cresser la patte c'est moins le cas, mais voilà, trouve toujours mille raisons pour expliquer pourquoi on va protéger ce champion français. C'est vrai que c'est un bon point. Il y a une toute culture, la culture de la concurrence est juste
elle est pas très développée. Merci beaucoup Anne de Guigné, qui est journaliste au Figaro. Tiens, j'ai ce petit message. Je peux vous le lire d'ailleurs, monsieur le professeur, parce que vous pourriez y répondre. En même temps, c'est tellement compliqué l'économie. Même les économistes s'y perdent. Qui pour expliquer l'économie aux petites gens? J'ai commencé à lire la BD Economics. Vous en avez entendu parler?
Oui, je l'ai lu aussi.
Ouais, simple à lire, extrêmement intéressant, mais dur à retenir, me dit Max.
Bien, les sondages montrent qu'effectivement, les Français trouvent que les mots utilisés par les économistes sont incompréhensibles, trop compliqués, etc. Donc il y a une question la question c'est de présenter les choses clairement
un
et c'est possible.
Economics
le fait un peu de pédagogie et la radio a un rôle très important à jouer dans ce domaine.
Mais vous avez des confrères parfois qui surjouent la complexité, c'est-à-dire qui se servent d'un vocabulaire un peu abscon, en tout cas technique, pour entretenir une distance entre eux et le public dans le genre moi je sais pas vous. Oui. Ça arrive aussi.
Hein. J'approuve ce que vous dites.
Bon, Raphaël est là et il m'appelle du Rhône, entrepreneur. Bonjour Raphaël.
Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe de RMC.
Bonjour Raphaël. Alors, je vous écoute.
Alors moi, je me faisais un peu réagir là, tous vos propos parce que
c'est bien.
Que vous êtes quand même super orienté. Alors moi, ce qui m'énerve un petit peu dans tous vos discours, c'est que on a une idée de l'économie à la forme anglo-saxonne, très formatée, très organisée, mais on a d'autres cultures en France. Je pense qu'on a une culture économique qui est aussi dépendante de nos origines et qui peut très bien fonctionner.
Ouais.
On a des variations de voir le business avec une mode latine, avec une mode anglo-saxonne, et c'est pas pour autant qu'on peut pas la comprendre avec ses subtilités.
Mmh.
Parler avec un économiste.
Mais quoi, par exemple, Raphaël?
Montons un business en Italie, au Portugal, ou montons un business en Grande-Bretagne. La manière dont on appréhende le travail et puis le business model, il est différent. On a une sensibilité différente par rapport à l'approche
du
travail.
À la fin, Raphaël, il faut que le bas de page soit positif. C'est-à-dire qu'il faut gagner de l'argent dans les deux cas. C'est ni latin ni anglo-saxon, ça.
Oui.
Parce que quand on n'en gagne pas, on n'en redistribue pas. C'est connu.
Oui, mais on est d'accord qu'en bas de la colonne, les choses, elles sont identiques pour tout le monde. Mais il n'empêche que la manière d'appréhender le travail, le business, la manière dont on va générer du cash flow ou de l'argent, il est différencié en fonction de notre culture. Et vouloir enseigner peut-être à tout le monde sans tenir compte de ses subtilités de culture, eh ben forcément on comprend pas. Voilà, on ne peut pas fonctionner. Moi je suis entrepreneur, j'ai fait une école de commerce, j'ai bien senti que dans la manière dont on appréhendait un marché où on appréhendait une façon de travailler, les économistes ne comprenaient pas forcément la manière dont on apprenait.
Et
ça, faut le comprendre.
C'est-à-dire
que si on veut enseigner l'économie à des gens qui sont de cultures différentes avec les mêmes règles, anglo-saxonnes, forcément, personne ne comprendra
En tout cas, Raphaël, aujourd'hui, les règles comptables, elles sont plutôt anglo-saxonnes. Il nous reste juste une petite minute pour conclure. Pierre Robert, oui.
Non, oui, j'entends bien l'objection.
Vous écoutez Raphaël, oui.
Oui, j'entends bien son objection. Oui, pour les nuances, oui, pour les différences de sensibilité. Oui. Cela dit, il existe des principes quand même universels, valables dans les différents pays. Et
non, il y a quand même des éléments scientifiques en économie, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vision politique de l'offre, politique de la demande. Il y a eu un grand débat en France là-dessus. C'est la deuxième partie du mandat de François Hollande. C'était la première partie de notre émission aujourd'hui. Bon, ça a donné des résultats, quoi qu'on en dise. On sait un certain nombre de choses qu'il faudrait pouvoir dire. Les politiques de la demande, ça marche plus, tout simplement. Ça marchait un monde fermé, voilà, avec des frontières. Aujourd'hui, vous distribuez de l'argent sur le marché, ça va enrichir les industriels chinois, coréens, allemands, et peu les Français, ça ne laissera rien. Voilà.
Ça ne marche plus dans le contexte actuel.
Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Je renvoie à votre note, Pierre Robert, institutsapiens.fr. Elle porte un nom précis.
Comment élever le niveau des Français en économie?
Ouais, bah voilà un vrai programme. Très bien. Allez, Tiffen.
Les Français sont nuls en économie et ça nous coûte cher, d'accord ou pas d'accord. Et pour ce résultat final, vous êtes 76% à être d'accord avec Pascal.
Dans une petite minute, 3 minutes de gloire sur RMC, dans Radio Brunet.
RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire.
3 minutes de gloire aujourd'hui pour Aurélien Goutfard. Bonjour Aurélien.
Bonjour.
32 ans, fondateur de Home Loop. Alors c'est une fondation, une création qui date de 2016. Et alors c'est assez particulier, mais ça correspond à un vrai besoin. C'est une start-up qui propose un service automatique d'achat de biens immobiliers en 48 heures. Ça s'adresse à qui exactement ?
Alors Home Loop s'adresse essentiellement à des vendeurs motivés, ouais. C'est-à-dire un vendeur typiquement qui, au lieu de prendre un pré-relais, souhaite vendre son appartement ou sa maison rapidement et bénéficier de son apport pour
alors
pouvoir acheter sa nouvelle maison.
Alors c'est l'un ou l'autre, c'est soit un pré-relais, soit Home Loop, ou ça peut être les deux?
Non, c'est en général l'un ou l'autre. Après, on a aussi des clients qui ont déjà pris un pré-relais et qui décident finalement, de manière à sécuriser leur vente très rapidement, à vendre directement leur appartement à Home Loop.
Bon, c'est un service digital?
Absolument. Donc le concept est très simple, c'est-à-dire que l'utilisateur va sur notre site internet, remplit un formulaire d'une vingtaine de questions, et il obtient immédiatement une estimation de la valeur de son bien.
Et elle est faite comment? Il y a un petit algorithme derrière, c'est ça?
Exactement, on a développé en fait une technologie qui s'appuie donc sur sur plus de 3 millions de transactions immobilières réalisées en Île-de-France, et sur la base de laquelle on a créé un algorithme effectivement de pricing qui nous permet donc d'évaluer avec précision la valeur du bien et également d'évaluer en combien de temps on serait capable de revendre ce bien.
Tiffen, est-ce que tu ferais confiance à un algorithme, à une machine pour évaluer le prix de ton appart ou de ta maison?
J'imagine, hein, plus qu'à une personne, je pense.
Ouais, finalement, on commence à faire confiance aux machines. D'ailleurs, qu'en réalité, on s'aperçoit que la machine, elle est plus juste, elle est plus précise, souvent, ça évite les jugements un peu à l'emporte-pièce. Hein, on sort du sentimentalisme un peu.
Alors, en effet, on va dire, la machine est précise. On enlève le degré d'émotion pour nous quand on se porte acquéreur. Néanmois, c'est vraiment la combinaison. Enfin, chez Home Loop, on a la combinaison d'experts humains.
C'est humanisé.
Il y a effectivement toujours un côté humain, puisqu'on parle quand même d'une transaction immobilière qui est une transaction extrêmement importante dans la vie de tout un chacun.
Bien sûr.
Donc il y a vraiment la double expertise, avec une expertise extrêmement forte, scientifique, technologique, dans la création d'algorithmes, et une expertise humaine, puisqu'on parle quand même d'un bien immobilier, et donc l'œil humain permet de voir des choses que l'algorithme ne peut pas évaluer.
Bien sûr. Combien êtes-vous?
Alors aujourd'hui dans l'équipe on est 8. Et donc ce qui est intéressant,
marché,
c'est que
parisien, français.
Aujourd'hui on travaille en Île-de-France. Oui. Donc Paris, première couronne, deuxième couronne, et l'ambition d'ici 2020, c'est d'être présent dans les 11 principales agglomérations françaises, qui représentent à peu près 80% de la taille du marché.
C'est là que se font l'essentiel des transactions.
Exactement. Aujourd'hui vous avez un marché de 960 000 transactions et 80% des transactions sont réalisées dans les grandes métropoles françaises.
Comment est venue l'idée?
Alors l'idée en fait est venue d'après une expérience personnelle, c'est-à-dire que moi-même
c'est souvent comme ça
ouais. En réalité je réalisais que j'ai voulu vendre un appartement et j'ai réalisé qu'en fait les options qui m'étaient proposées, c'est-à-dire de vendre en direct à un particulier ou vendre via un agent immobilier, en fait ne répondaient pas à deux questions qui étaient essentielles pour moi. C'est en combien de temps je vends, et vraiment à quel prix réellement je vais vendre en fait. Et c'est vrai que le service Home Loop permet d'avoir en quelques clics un prix et d'avoir une certitude de réalisation dans un délai court.
Qui sont les clients? C'est quoi le profil des clients?
Alors comme on disait en introduction,
plutôt des urbains, mais dans le profil un peu plus précis.
Ouais, le profil on va dire le persona, comme, comme on dit, effectivement, c'est des clients plutôt, une clientèle plutôt urbaine, puisque de toute façon, nos marchés sont plutôt des marchés urbains. Et c'est un propriétaire, donc souvent, qui a entre 45 et 65 ans. On commence à voir quelques plus jeunes qui ont acheté relativement jeunes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a été, d'ailleurs, c'était un peu une surprise au départ, c'est-à-dire que on n'a pas une population de millennials complètement, on a vraiment le profil du propriétaire.
Alors, moi, je pense que la propriété dans l'immobilier, ça peut être une barrière à l'emploi. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit souvent que on a une maison, on n'a pas envie de changer de boulot parce que ça imposerait de déménager et que c'est compliqué. Là, vous fournissez une solution un peu clé en main. Là, hein.
Exactement. C'est-à-dire que concrètement, on a déjà eu le cas d'une personne qui était mutée, qui était puntée, qui travaille en Île-de-France, propriétaire d'un appartement en première couronne et qui est mutée du jour au lendemain à Madrid. Et donc, effectivement, il faut déjà s'acclimater à une nouvelle vie. Et effectivement, vendre un appartement, qui est un processus qui prend en France entre 4 et 6 mois, avec Homeloop, en fait, est extrêmement
simple. Vous êtes un spécialiste de l'urgence, en fait. Alors... C'est l'urgence immobilière, pas seulement, mais il y a ça, notamment, dans l'identité.
Il y a effectivement la rapidité, mais au-delà de la rapidité, il y a vraiment la notion de sécurité. Ouais, c'est-à-dire que même cette personne qui est partie à Madrid, finalement, elle nous a fait confiance et elle savait que 2 mois plus tard, sa transaction serait réalisée. D'accord. Alors que si elle était... Elle
avait gagné un peu d'argent?
Oui. Pardon,
vous gagnez vous un
peu d'argent. Alors nous effectivement de toute façon on est une société. On est une société donc notre objectif c'est effectivement de gagner de l'argent et donc en effet on se rémunère en fait sur la différence entre le prix d'achat et le prix de revente.
Parfait, merci beaucoup Aurélien Goudfard, 32 ans, fondateur de Homeloop. Pour vous joindre, www.homeloop, ça s'écrit homeloop.fr. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Allez, nous nous retrouvons demain pour un nouveau Radio Brunet. À partir de 13h, on sera en direct avec les charmantes dames, les drôles de dames, là, tiens, qui m'accompagnent.
Les pascalettes,
elles sont super. Vous écoutez RMC, il est 15h.